bon, allons-y, c'est le moment de l'agiter.
Oh, j'avais pas vu l'heure.
Et c'est sur l'autre radio ?
On parle souvent des festivals comme de grands rendez-vous, des dates dans un agenda, des chiffres de fréquentation, des budgets, des artistes à la file. Et si on se demandait plutôt qu'est-ce qu'il reste d'un festival quand les guirlandes sont rangées, peut-être un peu de poussière sur les chaussures, des images qui continuent de s'allumer quand on ferme les yeux, la conviction que des histoires sont passées par là et qu'elles ont laissé leur empreinte. Aujourd'hui, on tend le micro à celles et ceux qui font pousser ces histoires. Presque à main nue, l'arbre bavard revient à Andouillé pour sa 5e édition, du 1er au 3 août, avec ses racines, ses branches et un nouveau terrain de jeu pour que la création puisse s'inventer autrement. Alors pour en parler aujourd'hui, Manon Savary, responsable du pôle communication pour le festival, est à mes côtés aujourd'hui. J'en suis très contente. Bonjour Manon, comment est-ce que tu vas ?
Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir.
Avec plaisir. Donc si vous vous demandez pourquoi un festival ? Comment le rêve et ce qu'il dit de nous, de notre époque et puis du coin. Restez avec nous, ce sera en première partie d'émission dans quelques instants. Le reportage du jour ensuite nous emmène quelques jours en arrière puisque vendredi matin dernier, devant le centre hospitalier de Laval, soignants, syndicats et citoyens se sont rassemblés dès l'aube pour dire non aux suppressions de postes et à la fermeture de lits prévus par le plan régional. Vous entendrez leurs témoignages et leurs inquiétudes pour l'avenir de l'hôpital public. L'occasion de faire un point aussi sur un rendez-vous qui vous a donné à partir de 18h en soutien aux soignants devant le centre hospitalier aujourd'hui. Et on terminera cette émission avec la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Loïc Bedouet, co-président de l'association, nous offrira un éclairage en phase avec l'actualité et surtout sur ces réalités qu'on oublie trop souvent d'écouter. Et avant de commencer, un mot pour te saluer quand même. Maxime, tu m'accompagnes depuis janvier sur cette émission. C'est ta dernière semaine à bord avant la fin de la saison radio. Alors merci déjà à toi pour ton engagement et ta bonne humeur. Le décompte est lancé. Comment est-ce que tu vas ce début de semaine.
Bonjour à tous, ça va super et toi Margot?
Oui. Et bien, très très bien. Bienvenue aussi à l'auditeur de l'autre radio qui ne voulait pas que cette semaine commence, qui attendait tenter de la retenir en vain. La bonne nouvelle, c'est qu'on la commence ensemble avec des invités. Une invitée qui nous fait du bien puisque oui, allez, c'est parti, l'agité du local commence maintenant avec l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. Alors il y a des festivals qui ressemblent à des machines et puis il y a ceux qui ressemblent à des cabanes dans les arbres, un peu bancales, un peu vivantes, où l'on grimpe avec curiosité et où on leur descend un peu changé. L'arbre bavard, c'est ça, un endroit où la création se raconte sans costume, où le cirque, la danse et le théâtre viennent se mêler aux herbes folles d'Andouillé. Cette année, du 1er au 3 août, la fête garde ses racines mais change de terrain, comme pour rappeler qu'un festival c'est avant tout un mouvement, un désir collectif et un pari sur la rencontre. Alors je vous le disais, pour en parler avec nous aujourd'hui, pour mieux ressentir ce qui va s'y passer et ce qu'on va pouvoir y voir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Manon Savary. Déjà Manon, est-ce que pour commencer, tu peux nous représenter en quelques mots l'histoire du festival L'Arbre Bavard et ses principaux objectifs ?
Oui, L'Arbre Bavard, c'est un festival qui a été créé il y a 5 ans. La première édition, elle a eu lieu en 2021 et elle a été créée, on était à la base 8 jeunes étudiants et étudiantes qui étaient notamment une grosse partie au Conservatoire de Théâtre du Mans. Et puis, à post-Covid, on cherchait un peu des solutions pour se rassembler, montrer quand même des projets théâtraux. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'Arbre Bavard, de créer un rassemblement où on pourrait voir plusieurs spectacles créés par des artistes émergents et émergentes. Et tout ça avec des jauges réduites et respectueuses.
Oui, puisqu'on parle de micro-festival et cette dimension te tient à cœur en fait. Oui,
carrément. Déjà, l'Arbre Bavard, c'est un micro-festival de par sa taille. On est sur une jauge d'à peu près 800 personnes par jour. Et en plus, on répartit sur le site, on a 4 espaces scéniques. Donc ce qui fait que les spectacles, on peut les voir dans des conditions plutôt agréables avec, 150, 200 personnes. Donc c'est agréable à la fois pour le public, à la fois pour les artistes qui jouent. Mais aussi, cette dimension de micro-festival, c'est aussi quelque chose, une dimension politique aussi qu'on met en avant pour toutes ces valeurs aussi écologiques. Comment est-ce qu'on réfléchit à créer des rassemblements qui sont plus respectueux de l'environnement et aussi des artistes et du public, et aussi comment est-ce qu'on en fait des espaces un peu laboratoires pour réfléchir et rêver à des nouveaux modèles de société et en faire l'expérience juste sur 3 jours et peut-être infuser petit à petit des changements pour un monde plus sain, quoi.
Alors, cette 5e édition marque un changement important avec le nouveau site d'accueil. Quelles sont déjà les raisons de ce déménagement, peut-être ?
Ouais, alors on déménage parce qu'on a été 4 ans sur un super terrain très charmant, bucolique et génial, mais qui commençait à être un peu serré là pour notamment l'équipe qui s'agrandit. Je l'ai dit, on a commencé à 8, là on est à peu près 30 à s'investir à l'année avec des charges un peu différentes, mais oui, donc on commence à être nombreux et nombreuses. Et puis aussi, c'était un terrain privé, donc ça posait aussi des questions même d'accessibilité, même de sécurité. Donc là, on a la chance que la mairie d'Andouillé nous prête un terrain proche du bourg, ça s'appelle le Crapa. C'est un super terrain, hyper grand, très vert aussi. On va garder vraiment l'essence du terrain rural qu'on avait, mais on se rapproche un peu du centre, du bourg, donc ça va être chouette aussi, même pour faire venir aussi des nouvelles personnes qui ne seraient pas encore venues.
Est-ce que ça représente un défi logistique particulier ou peut-être que justement ça devient plus confortable pour l'équipe qui organise ?
Tu veux dire le changement qui est plus confortable. Ouais, bah c'est clair que ça va être plus confortable. Ça, il y a, en fait, c'est des nouveaux défis. On va sur un terrain plus vaste, plus grand, plus accessible. Donc ça, c'est super. Mais et on a aussi du coup accès aussi à des locaux qui sont un peu proches. Du coup, ça aide quand même. Mais c'est vrai que oui, il y a à nouveau des nouveaux défis, notamment scénographiques. Il faut repenser tout l'espace, il faut repenser les circulations, là où tout devenait un peu logique avec 4 ans, des espaces qui restaient un peu les mêmes. Mais c'est chouette aussi le changement.
Alors, quelles sont les grandes lignes de cette programmation 2025 ? Quelles disciplines seront représentées cette année ? Est-ce qu'il y a des modifications ou est-ce qu'on reste dans le même esprit des 4 premières éditions ?
On suit quand même la même formule que les éditions précédentes avec au cœur de la programmation, une grosse programmation art vivant, donc avec du théâtre, du cirque, de la danse, de la marionnette. En tout, on aura 11 spectacles sur tout le week-end. On a un spectacle d'ouverture le vendredi soir, qui est le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc là, c'est un spectacle plus long, à la tombée de la nuit, vraiment où on se pose, qui va être vraiment chouette. Et puis, on a le samedi et le dimanche, ça commence à partir de 14h, la programmation des spectacles. Donc une dizaine de spectacles. Chaque spectacle joue 2 fois par jour et c'est des formes plutôt courtes, entre 30 minutes et 1 heure pour les plus grandes. Mais donc on peut un peu piocher un peu ce qu'on a envie de voir, faire son petit parcours, soit faire son petit parcours pour réussir à tout voir dans le week-end, ou soit aller voir 4-5 formes qui nous plaisent. Mais on met toujours l'accent sur les artistes émergents et émergentes. Donc ça va être que des jeunes professionnels ou des circassiens, des circassiennes, des théâtreuses qui commencent leur vie professionnelle. Et voilà, avec plusieurs degrés d'émergence aussi. Il y en a qui sont encore en école, il y en a qui n'ont jamais fait d'école, il y en a qui ont déjà quelques spectacles avec leur compagnie. Donc c'est chouette aussi de montrer toute cette création-là.
Et alors, d'où viennent ces artistes et ces compagnies qui sont accueillies ? Est-ce qu'on reste sur quelque chose d'assez local ou est-ce que vous avez été puisé un peu plus loin ?
Bah, comme chaque année, on a des artistes qui viennent un peu de partout. Là, on reste sur des artistes quasiment tous du territoire français. On a une artiste qui vient de Bruxelles, qui nous fait un seul en scène. Et sinon, ouais, on a quand même des artistes qui sont plutôt locaux, qui viennent de Nantes ou de Tours ou de la région Angevine aussi. Mais d'autres qui viennent de plus loin, ouais.
L'Arbre Bavard, donc, comme tu as pu le dire, se veut un festival vraiment de soutien aux jeunes créateurs. Quels critères guident vos choix de programmation dans tout ce que vous avez, donc dans ces 11 spectacles qu'on va pouvoir découvrir? Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, celui-là, il faut qu'il soit dans cette édition?
Pour choisir, on passe par un appel à projet, ce qui permet un peu de... Enfin, comme généralement quand on est une jeune compagnie ou un jeune artiste, c'est difficile de diffuser son spectacle parce qu'on a un manque de visibilité, un manque de lien aussi avec les structures institutionnelles. Donc c'est un peu la solution qu'on a trouvée pour que les gens viennent à nous et proposent leur spectacle. Et là on s'est fait un peu il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont postulé. On a eu 200 dossiers où on a dû choisir 10 spectacles.
Donc l'année dernière, déjà, ça avait été conséquent aussi. Vous avez été un peu étonné, justement, de...
Oui, l'année dernière, on était déjà étonné, mais l'année dernière, c'était 270. Du coup, on était là, 700. En fait, c'est un peu exponentiel, ça. Oui. Fait x2, donc il faudra qu'on trouve des solutions un jour. Pour... Parce que là, ça nous prend vraiment
c'est
beaucoup de temps.
C'est énorme.
Mais du coup, les critères qu'on met en place, c'est déjà que... Donc, être une... compagnies émergentes. Donc nous, on considère que les compagnies émergentes, c'est des compagnies qui n'ont pas encore cette reconnaissance institutionnelle et donc du coup, les moyens financiers, les moyens de communication, les moyens pour créer qui sont liés à ça. Et après, c'est des critères très simples de est-ce que ce spectacle peut jouer en plein air, de temps aussi, parce que je le disais, le week-end, c'est quand même des formes plutôt courtes pour que ça soit un planning... plutôt léger et tout.
Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent très fort cette année ou est-ce qu'on est encore sur une diversité ?
C'est plutôt divers, mais... Oui, c'est plutôt divers, mais c'est quand même toujours assez représentatif aussi des problématiques de la jeunesse et aussi des... Ouais, enfin du coup, en fait, un spectacle, c'est une œuvre et du coup, ça... parle forcément de choses qui tiennent à cœur ou qui sont politiques, etc. Je sais que là, on a un spectacle qui une sorte de cabaret de marionnettes qui parle beaucoup d'identité de genre. Et on a aussi un spectacle qui reprend le mythe de Blanche-Neige, mais un peu en déconstruisant tout le système... les idées patriarcales qui sont derrière et en ayant un autre angle d'attaque là-dessus. Aussi, on a un spectacle qui est plutôt... un spectacle de jonglage, mais qui nous parle aussi d'antiracisme et de décolonisation. Il y a vraiment plein de choses. Voilà.
Avec l'époque, et c'est aussi la richesse de la scène émergente. Quel public est-ce que vous visez en priorité ? J'imagine que le public familial est le bienvenu.
Ouais, carrément. On a quand même une programmation qui est axée pour toute la famille. Donc le spectacle sur Blanche-Neige, notamment, c'est un spectacle jeune public. Et le but, c'est de faire venir un public hyper divers. Et on a assez de la chance avec l'Arbre Bavard parce qu'on a un public qui est assez jeune et très familial aussi et qui change aussi de... On dit souvent que dans les institutions théâtrales, dans les théâtres, c'est beaucoup les têtes blanches ou un peu les
sages.
Ou des personnes plus âgées et qui sont... Bref, et du coup là, c'est chouette aussi de voir qu'on a aussi de la jeunesse et aussi des gens qui viennent aussi du territoire, des voisins qui ne vont pas forcément se déplacer l'année pour... voir du théâtre ou quoi, mais là, qui prennent ça comme un rendez-vous, une fête un peu pour se rassembler, qui voient des spectacles aussi à cette occasion-là, c'est trop bien.
Ce qui est important de préciser, c'est que vous aussi, vous avez subi les coupes régionales, mais ce festival vit encore grâce finalement au soutien locaux, aux institutions locales qui continuent à porter le projet.
Oui, carrément. Nous aussi, on a subi les coupes de la région, donc on perd 1500 euros dans le budget. Mmh. Pour l'instant, on venait d'avoir des liens avec la région, donc on était à un stade où on n'avait pas beaucoup d'argent d'eux, mais c'est vrai que pour les structures culturelles, la région pouvait être un potentiel grosse aide et gros partenaire. Donc on verra à l'avenir si ça change. Ça change tout ça, mais ouais, ça pose aussi des questions de liberté, de où est-ce qu'on trouvera cet argent plus tard ? Est-ce qu'on va devoir plus aller vers du privé ou quoi ? Mais pour l'instant, ouais, on s'en sort dans un budget bien serré, mais on s'en sort.
Est-ce que tu peux nous parler, Manon, de l'équipe qui organise ? Donc tu as dit maintenant vous êtes passé à 30 personnes. Il y a aussi des bénévoles. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement de toute cette organisation de l'ombre ?
Ouais, en plus on a un peu restructuré tout le côté associatif cette année pour permettre à plus de gens d'intégrer le projet. Donc là on est une trentaine de personnes qui font partie de l'équipe d'organisation à l'année. Et on réfléchit le projet, on est à différents postes, chacune. Et on est une trentaine là, et on sera rejoint par une centaine de bénévoles cet été à partir du 28 juillet, je crois, si je ne me trompe pas. qui, donc on commence la semaine de montage le lundi qui précède le festival et puis on termine 3-4 jours après pour le démontage.
Et alors on peut vous rejoindre, il est encore temps, il faut vous contacter dès maintenant.
Ouais, complètement, on a encore besoin de monde dans les équipes et puis vous retrouverez le formulaire d'inscription pour être bénévole sur notre site ou sur les réseaux, il est facilement trouvable.
Il y a différentes missions dans tout genre ?
Ouais, différentes missions, on a du bricolage, de la peinture, un peu de montage technique, de la restauration, même de la com aussi, on va tracter au marché.
Pour tous les goûts, ouais, pour tous les tempéraments, les personnalités, c'est l'occasion de croiser du monde du coin et de passer un bon moment un peu sous le soleil qu'on attendait tant et qui nous réchauffe bien en ce moment.
C'est un peu la colo de l'année à Andouillé, quoi. En vrai, c'est trop bien.
Mais c'est vrai que j'ai des échos particulièrement bons sur la préparation de ce festival.
Ouais, on s'amuse bien.
C'est vrai, c'est pas un mensonge. Quelle perspective ? Est-ce qu'on a déjà des perspectives pour les prochaines éditions ou est-ce que pour l'instant, à quelques jours du début, on est vraiment au présent ?
Bah, on se concentre sur cette édition-là. Les envies qu'on a avec l'association, donc pour l'instant, l'association, c'est l'association L'Arbre Bavard et on crée le festival de L'Arbre Bavard. Et c'est de développer aussi tout l'aspect soutien aux artistes émergents et émergentes et pas se contenter, entre guillemets, mais d'avoir ces 3 jours-là où on les met en lumière, mais comment est-ce qu'on fait de L'Arbre Bavard aussi une plateforme d'aide et de soutien aux jeunes créateurs et créatrices, notamment en créant des partenariats aussi sur le territoire mayennais pour accueillir et soutenir des compagnies en résidence, les aider aussi à structurer leurs compagnies, parce qu'on a aussi une bonne équipe de productrices et d'administratrices dans notre équipe qui sont bien calées sur ces sujets-là. Et aussi comment, même en termes de communication, sur nos réseaux, sur notre site internet, on met aussi à disposition des ressources pour aider ces jeunes-là à s'aiguiller dans tout ce méandre de la jeune création, de la jeune professionnalisation.
L'ensemble de la programmation n'est pas encore disponible.
Ça sera dévoilé dans la semaine, notamment sur le site. Mais vu les 700 dossiers, on a pris pas mal de retard.
Et donc, on sait que c'est des pépites. Ce qui va apparaître, ce sont des pépites. Ce sera sur votre site internet, puis aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, ouais, complètement. Mais oui, et puis de toute façon, on sait souvent que les gens viennent aussi à L'Arbre Bavard aussi pour l'ambiance et tout, et les spectacles, ils nous font beaucoup confiance pour, pour découvrir des choses chouettes.
Et donc cette 5e édition, je le rappelle, aura lieu du 1er au 3 août au Crapa à Andouillé. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous.
Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Et on sera d'ailleurs l'autre radio évidemment sur le festival comme chaque année, c'est un plaisir. Merci beaucoup Manon. Alors on va continuer maintenant cette émission en musique. Les Ogres de Barbac et la rue Quétanou partagent depuis longtemps la scène et une certaine idée de la chanson libre et sans concession. Ils seront d'ailleurs réunis ce vendredi au festival Le Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gâtine. On écoute tout de suite Almarita.
Elles sont peut-être des folles de Nevers ou de Séville, des bracelets qui farandolent, des boucles dorées qui sourient, à une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre sur une scène à macadam ou une histoire que l'on raconte. Où la musique c'est elle et la fête. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane.
Elle chante pour tous les printemps, tant de vie et ses gros temps, mais elle n'a pas vu rester.
L'âme gitane ne fait que passer.
Elle se suscite 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. Et la musique c'est elle, et la fête fait son entrée.
Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane.
Elle porte des marques du voyage et savent très bien nous y faire croire. Rien qu'à la regarder danser, je cherche pas à comprendre, y'a qu'à y aller. Ni femme de marin, ni putain,
Je sais qu'elles repartiront des joies de gens dans une main et une valise lisse pleine de chansons. Pour la Belgique, c'est elle et la fête
fait son entrée.
Elle marie la danse chante pour les gitans et que mon cœur vole.
Travaillent comme des fous pour se payer des clous à clouer sur leur feuille de vie.
Mais la mort est sans bagage.
Moi de tout cela je ne veux rien. Les poches vides et le cœur plein
d'amour qu'une gitane m'a laissé. Où la musique c'est elle et la fête fait son entrée. Anne-Marie, j'attends ce chant pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marie, j'adore ce chant pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marie, j'adore ce chant pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marie, j'adore ce chant pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Anne-Marie, j'adore ce chant.
Liberté, égalité, solidarité. Le 1er juillet, les soulèvements associatifs remettent la République à l'endroit. Cette date marque les 124 ans de la loi de 1901, fondement de la liberté d'association. Mais en 2025, faire toujours plus avec toujours moins, ça ne tient plus. C'est le cri d'alerte de celles et ceux qui font vivre la République au quotidien. Alors le 1er juillet, rendez-vous dans la rue, sur les ondes, pour dire que si les associations tombent, c'est la démocratie qui vacille. Pas de société solidaire sans association citoyenne. Partout en France et sur association-citoyenne.net, faisons entendre les voix du monde associatif. Une société sans asso, c'est une société en morceaux. L'intelligence associative n'est pas artificielle, c'est elle qui nous sauvera. Les radios associatives réunies au sein des locales s'associent à cette initiative.
L'hôpital de Laval se lève. Vendredi dernier, dans la matinée, les manifestants ont décidé d'entrer dans la salle du conseil de surveillance, forçant le report de la réunion face à la pression. L'ARS a finalement annoncé le gel des suppressions de postes, le temps de nouvelles discussions. C'était un reportage donc, qui a été réalisé auprès des syndicats et citoyens ce vendredi. Écoutez.
Linda Segura-Minger, je suis salariée de l'hôpital de Laval. Je suis aide-soignante dans une des EHPAD de l'hôpital de Laval. Et je suis aussi représentante du personnel CGT. Aujourd'hui, c'est le jour du conseil de surveillance. Et en fait, on a voulu faire une mobilisation devant l'hôpital par rapport au plan social, au fait qu'ils veulent nous supprimer une cinquantaine de postes sur l'hôpital de Laval. Et déjà qu'on manque de moyens cruciaux au niveau des hôpitaux. On manque de bras, on manque de lits, on manque de tout. C'est pas en nous annonçant encore une fois des fermetures de lits et des postes en moins qu'on va pouvoir faire fonctionner l'hôpital et soigner correctement les patients. On a besoin de tout le monde pour faire fonctionner l'hôpital et on ne peut pas perdre un seul poste en fait.
Vous avez reçu une annonce de 10 millions d'euros pour l'hôpital. Qu'est-ce que ça représente pour vous et peut-être pourquoi ce n'est pas suffisant?
Alors, ce n'est pas suffisant d'abord parce qu'ils ne nous disent pas s'ils arrêtent les suppressions de postes. Donc nous, c'est déjà ça qu'on voulait savoir. Et ce n'est pas suffisant parce que ça ne va pas combler tout le déficit qu'a aujourd'hui l'hôpital. Et nous, ce qu'on veut, c'est un effacement total de la dette des hôpitaux en général et pas que l'hôpital de Laval.
Qui est-ce qui vous soutient aujourd'hui dans ce mouvement? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels, des citoyens, des agriculteurs, des élus?
Alors hier soir, on a eu le soutien des jeunes agriculteurs qui sont venus avec leurs tracteurs. Là, aujourd'hui, oui, on a encore des associations qui sont présentes. Et puis les élus qui nous soutiennent quand même aussi, le maire de Laval, les députés apparemment qui sont intervenus. Donc non, on a du soutien quand même.
Comment est-ce que vous décririez l'ambiance aujourd'hui? Quel message vous voulez transmettre au public en occupant l'entrée de l'hôpital de Laval comme ça?
On veut transmettre que l'hôpital c'est un bien public, tout le monde en a besoin et qu'aujourd'hui on a besoin de tout le monde pour le sauver, notre hôpital.
parle des coupes budgétaires, des fermetures de lits, des suppressions de postes. On voit déjà un impact concret sur les patients, mais aussi sur les soignants. Là, qu'est-ce que vous projetez si ça continue dans cette direction pour l'avenir, même à court terme ?
À court terme, on projette de continuer les mobilisations. Pourquoi pas aller devant l'ARS à Nantes, voir le ministère sur Paris.
La grève commence aujourd'hui. Elle s'étend jusqu'à une réponse satisfaisante ?
Alors la grève, elle est illimitée jusqu'à satisfaction de nos revendications.
Je suis Jean-Yves Maraquin. Je suis, on va dire, simple citoyen. Et je viens là pour défendre l'hôpital public. Nos inquiétudes, c'est les difficultés en fait, budgétaires auxquelles est confronté notre hôpital. Donc déjà, que notre hôpital ne se porte pas au mieux. Et en plus, il est question de coupes budgétaires à nouveau. Donc nous, on n'est pas d'accord, en fait. On veut participer à la prise de décision. Alors peut-être qu'en effet, il y a des économies à faire, il y a des réorganisations à faire, il y a sans doute des choses à faire. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la qualité du service. Je trouve une gouvernance qui est peut-être à interroger. Là, j'entends dire que le directeur de l'ARS n'est pas présent alors que c'est un sujet majeur pour ce département. Il était d'ailleurs déjà absent lors d'une réunion que M. Bercot avait fait à la mairie. Ça veut dire qu'il y a un manque de dialogue et de prise en compte en fait, des citoyens et peut-être des futurs malades que nous sommes. En fait. La gouvernance doit être aussi réinterrogée.
Qu'est-ce que ça raconte une société qui sacrifie l'accès à la santé pour tous, pour vous, dans une situation de crise comme ça ?
Écoutez, moi je pense que c'est gravissime. La question budgétaire, en fait, évidemment c'est un sujet majeur, mais c'est aussi une question de priorité. Il y a des milliards qui existent, qui financent des investissements divers et variés ou du fonctionnement divers et variés. Peut-être qu'ils seraient mieux utilisés pour finalement un fondamental de notre société. Qu'est-ce que doit notre pays à ses citoyens ? La sécurité, la santé, ça ce sont des fondamentaux de notre société. Ça veut dire que là, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'enorgueillit de la qualité de nos soins. C'est vrai que les chercheurs français, le système médical français, paraît-il que c'est un des meilleurs au monde. Alors oui, mais si je me trouve à Laval, je n'ai pas la même facilité d'accès aux soins que si par exemple je me trouve à Nice, Monaco ou à peut-être Paris en fait. Hein. Donc il faut faire quelque chose et je compte sur nos politiques pour améliorer la situation.
En tant que citoyen lambda, est-ce que vous sentez que votre parole elle est entendue ?
Je pense que ce n'est pas un problème qui est spécifique à ce qu'on rencontre ce matin. C'est que la prise en compte du citoyen, elle n'est pas suffisante. Il paraît qu'on est dans une démocratie. La démocratie, c'est d'abord faire parler les citoyens, et puis ensuite, on écoute la majorité et on prend en compte le point de vue de la majorité. La majorité des citoyens sont pour un accès aux soins qui soit facilité et un accès aux soins de qualité, en fait. C'est pas ce qu'on a dans notre département et c'est pas normal.
Ce reportage a été enregistré alors que la mobilisation venait tout juste de débuter. Des soignants et syndicats du département, mais aussi d'Angers, Rennes, Le Mans ou même Saint-Nazaire étaient présents. Alors je vous le disais, dans la suite de la journée, face à la pression, l'ARS a finalement annoncé le gel de suppression de postes. Le temps de nouvelles discussions, un concert de soutien est également prévu devant l'hôpital ce lundi à partir de 18h avec les filles de voix et le cœur qui fait boum. Et la mobilisation pourrait se prolonger cet été si aucun engagement concret n'est pris. Alors on va continuer maintenant avec une pause musicale, toujours en restant du côté du festival Le Foin de la Rue. On va maintenant s'offrir un détour du côté des sons bricolés et des idées bien affûtées. Voici Le Chapu, un artiste qui transforme le plastique en instrument et les constats amers en refrains entêtants. Avec Ma Tribu, il signe un morceau à la fois ironique et percutant. Écoutez.
J'ouvre une bouteille de soda, t'as pas un trop beau son aigu. Je suis un génie, c'est un coca que je dois maintenant, c'est sûr tu es prévenu. Bouche à bouche avec un paquet de chips, partout je passe les déchets friendly. Tu peux m'appeler le Jésus du plastique, j'ai une couronne d'épines avec des rasoirs big. T'aimes la mort polyéthylène, tu fais partie de ma tribu. Tu kiffes éclater du papier bulle, tu fais partie de ma tribu. T'achètes de l'usage unique, car c'est plus pratique de jeter des trucs, jeter des trucs. Tu fais partie de ma tribu. Viens faire vibrer les homoplastiques. Donne-moi du plastoc. J'mets la montre d'Herbiancock. C'est pas compliqué. Dans la poubelle, y'a tout pour danser. J'ai des gimmicks avec des scobedo. Pom pom tchak et puis c'est tout. Tu fais des sapes en paquet de gruyère. Tu fais partie de ma tribu. Tu lâches en secret du polyester. Tu fais partie de ma tribu. T'as encore mangé ta carte bleue. T'es tout vaporeux, t'as touché les yeux. Sert à rien d'appeler le SAMU. Tu fais partie de ma tribu. Sur terre pour vous sauver, tu ne feras plus qu'un avec le PET. Je prends la lumière du polyester, sera ton nouveau paternoster. Viens dans la lueur, écoutez la voix des vibromasseurs. Suffit de gober des emballages de style pour entrer en hotline avec ma poésie. T'as capté le plastique est vivant, tu fais partie de ma tribu. Tu parles plus qu'à ta brosse à dents, tu fais partie de ma tribu. Tu fais partie de ma tribu, prosterne-toi, agenouille-toi, acclame-moi, encense-moi, car du plastique, je suis l'élu.
Alors nous voilà arrivés au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Loïc Bedouet, bonjour.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui pour la toute dernière de l'année ?
Immigration.
On vous écoute.
Alors mesures, instructions, réglementations, restrictions se multiplient tant au niveau national qu'européen pour restreindre, vilipender, rejeter toute forme d'immigration. Ainsi dernièrement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pris une instruction pour une vaste opération de contrôle d'identité dans les gares et dans les trains pour rechercher les personnes en situation irrégulière et les placer en centre de rétention administrative ou les renvoyer au-delà des frontières. Il convient d'examiner d'abord la légalité de cette instruction, puisqu'en application de la Cour d'arrêt du Cour de justice européenne de 2010, les contrôles doivent être aléatoires et non systématiques. Il ne devrait pas, selon l'article 78.2 du Code de procédure pénale, dépasser la durée de 12 heures, alors que l'instruction prévoit une séquence de 2 jours sans discontinuer. De plus, il est pour le moins étonnant que le ministre de l'Intérieur donne des ordres à la police judiciaire, qui est normalement sous le contrôle du procureur de la République. De surcroît, le Conseil constitutionnel ne cesse de rappeler que les contrôles d'identité ne doivent pas être généralisés, car cela serait contraire à la liberté d'aller et venir. Et qu'enfin, il est ordonné aux agents de la SNCF de pratiquer des contrôles de titres aux fins de contrôler l'identité puis le titre de séjour, ce qui constitue une preuve supplémentaire que le continuum de sécurité prôné par l'Intérieur est en réalité un continuum de surveillance qui octroie de facto à ses agents de la SNCF des pouvoirs relevant de la force publique et en contradiction avec l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Les syndicats de cheminots ont d'ailleurs appelé leurs membres à ne pas agir au-delà de leurs prérogatives. La Ligue des droits de l'homme dénonce une instruction qui donne en réalité un chèque en gris aux forces de l'ordre pour pratiquer des contrôles au faciès. Ces contrôles discriminatoires abîment la relation de la police avec la population et fragilisent le sentiment d'appartenance à la nation de personnes qui sont stigmatisées en violation de la promesse d'égalité devant la loi. Elle s'indigne enfin, de plus, que cette xénophobie croissante, alors que les pratiques de non-accueil dans les préfectures et les nouvelles dispositions ubuesques de la loi Darmanin sont à l'origine de la fabrique de sans-papiers, pour des personnes qui sont en réalité en droit d'avoir un titre de séjour ou d'être régularisées. Deuxièmement, deuxième exemple, le 16 juin dernier, la commission des lois de l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi adoptée déjà par le Sénat visant à interdire aux personnes en situation irrégulière de se marier. Pour autant, le mariage est un droit proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, le principe de la liberté du mariage a une valeur constitutionnelle et implique le choix à toute personne de se marier avec la personne de son choix ou d'ailleurs de ne pas se marier. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà jugé la chose en ces termes, je cite, le respect de la liberté du mariage s'oppose à ce que le caractère irrégulier d'un étranger fasse obstacle par lui-même au mariage intéressé. De plus, le procureur de la République dispose d'un pouvoir de s'opposer ou de sursoir à une célébration de mariage lorsqu'il existe des indices suffisants pour soupçonner l'absence d'intention matrimoniale. Le droit existant organise donc déjà la protection du consentement éclairé d'une union, et il n'est donc nul besoin d'en rajouter. Si à ces deux dispositifs nationaux, on relie la proposition législative de la Commission européenne en avril dernier d'inscrire l'Égypte, la Tunisie et la Turquie sur la liste des pays d'origine sûrs, contrairement aux dispositions précédentes, il est aisé de comprendre que l'ensemble de ces mesures constituent de graves menaces sur les droits des personnes exilées. En effet, ces mesures ouvrent la voie à des procédures accélérées pour les ressortissants de ces pays pour un retour aux frontières ou dans des zones de transit, ce qui limite les garanties procédurales aux demandeurs pour résulter à la présomption de sécurité. Rappelons que l'immigration a toujours et reste une chance pour un pays comme la France. C'est une chance d'abord pour l'économie du pays et pour répondre à une demande de main-d'œuvre insuffisante dans certains secteurs. C'est une chance pour nos systèmes de protection sociale qui voient ainsi de nouveaux cotisants arriver. C'est enfin une chance culturelle par le brassage des idées qu'amène l'immigration avec son lot de créativité et de techniques nouvelles. Imaginons deux minutes, réfléchissons deux minutes. Qu'aurait été l'essor industriel français sans les hommes venus de Pologne travailler dans les mines de charbon au nord du pays? Qu'aurait été la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale sans l'immigration massive italienne ou portugaise dans le bâtiment? Laval peut s'enorgueillir, par exemple, à juste titre d'ailleurs, des mosaïques des bains-douches, œuvre d'un certain Odorico, issu d'une famille d'immigrés de la région de Frioul au nord de l'Italie à la fin du XIXe siècle. Alors oui, plutôt que de stigmatiser, d'humilier, de criminaliser, il est peut-être temps de regarder le phénomène de l'immigration froidement, sans jugement a priori, et de bâtir une véritable politique de l'accueil au bénéfice de chacun.
Merci beaucoup Loïc, et bel été.
Merci.
L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Manon d'avoir été avec nous pour nous parler de l'arbre bavard. Merci à Loïc et puis merci à toi Maxime. Tu as jeté pour nous un coup d'œil sur la programmation.
Et oui, la soirée commence à 19h avec Sélénoïde. Comme chaque semaine, l'émission nous donne rendez-vous pour un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique.
Ensuite,
la soirée continue à 21h avec la discothèque de Manek.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Raphaël Denis qui nous parlera de la prochaine édition de la Fête de la Terre à Fontaine-Daniel. D'ici là, savourez ces derniers rendez-vous de la saison. On aura encore quelques pages à écrire ensemble avant de se dire à bientôt. Enfin, et surtout, s'il vous plaît, faites-le bien.
Ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.